Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. C'est l'été et on en profite pour vous faire découvrir de belles success stories, de belles entreprises qui ont fait le pari du Made in France. D'ailleurs, les entreprises d'aujourd'hui, nous les avions déjà interviewées, mais il y a de ça 3-4 ans au moins. Donc on va prendre de leurs nouvelles avec vous, deux entreprises qui ont su innover dans leur secteur. Connaissez-vous le drive tout nu ? Ça, c'est après la pub. Mais tout de suite, on va donner la parole aux inventeurs de Bob, le mini lave-vaisselle.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en ligne avec Antoine Fichet de Dan Technology et Nicolas Ravalec. Bonjour Antoine, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec vous, Antoine Fichet, parce que le projet Bob est parti d'une de vos idées, qui est devenue réalité avec la société qui a été créée en 2016, avec notamment Damien Pi, j'espère que je prononce bien. Et donc, cette entreprise, qui était une toute petite start-up au départ, est devenue une jolie PME vendéenne avec plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment vous est venue l'idée de ce Bob ? Le lave-vaisselle, le mini lave-vaisselle, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore.
Alors, l'idée d'un mini lave-vaisselle, c'était lorsque j'étais étudiant dans le sud-ouest. J'avais un petit appartement et il existait des mini frigos, mais pas de mini lave-vaisselle. Et comme j'ai toujours détesté faire la vaisselle, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et j'avais toujours cette volonté de créer une entreprise industrielle avec un produit physique, que je trouvais ça beaucoup plus intéressant qu'une application mobile, entre guillemets. Et c'est pour ça que je me suis associé avec Damien en 2016, donc quelques années plus tard, parce que l'idée remonte à 2009, et qu'on a démarré l'aventure en 2016, et qu'on a rencontré Nicolas en 2017, donc une année après.
Mais alors, il faut le dire que ce lave-vaisselle, il est entièrement fait en France. C'est en ça qu'il est aussi, innovant. Il a d'ailleurs le label Origine France garanti. Et ça n'a pas été une mince affaire hein, de pouvoir justement refabriquer un lave-vaisselle 100% made in France.
Oui, effectivement, ça a été aussi une volonté très forte de notre part de relancer, de réindustrialiser la France à notre échelle, parce qu'il y avait plus de lave-vaisselle made in France en 2016, et donc on est aujourd'hui seul fabricant de lave-vaisselle en France.
Ça paraît dingue.
On est Origine France garantie, avec plus de 70% de la valeur ajoutée en France, et je pense que peut-être que Monsieur Ravalec, Nicolas, peut en dire quelques mots à ce sujet.
Oui, parce que Nicolas Ravalec, vous êtes expert en électroménager hein, depuis plus de 20 ans, et donc aujourd'hui, vous accompagnez cette belle équipe de Bob, le mini lave-vaisselle. Alors, expliquez-nous justement, parce que c'est vraiment un secteur qu'on a perdu au fil des ans.
Oui, alors c'est vrai que le lave-vaisselle classique, les gros lave-vaisselle encastrables ou encastrés sont maintenant faits beaucoup en Asie. Et l'intérêt du Bob, c'était un produit qui était assez fun, qui était très joli, très mignon, et puis qui était donc assez petit, qu'on puisse aussi livrer en direct en e-commerce. Et donc, c'est des points qui ont été facilitants pour l'industrialisation. Donc, un produit plus petit, donc moins difficile à fabriquer. Et avec les quelques personnes des équipes d'anciennement de Brandt qui faisaient de la vaisselle, on a pu mettre au point ce produit et de l'industrialiser d'une façon on a mis 2 ans à peu près hein, à finir le produit. Et aujourd'hui, il est de bonne facture. Et en fait, on a expédié depuis le début 60 000 bols de Bob depuis novembre 2020.
Mais à vous écouter, ça veut dire qu'aujourd'hui, faire un grand lave-vaisselle, on ne pourrait pas encore en France. On n'a pas le process de fabrication. Il nous manquerait 100% made in France là encore. Enfin, ou au moins 70%. Il nous manque là encore des lignes de production.
Ah oui, tout à fait. Alors sur des produits comme ça, mass market, où la concurrence directe, où il y a peu de différenciation entre les produits, ça reste difficile. Aujourd'hui, il y a les gros fabricants chinois, ailleurs, etc., ont des usines gigantesques en Asie, ou ça peut être aussi en Turquie, en Europe de l'Est. Et aujourd'hui, les prix de revient sont encore difficiles et la compétition serait trop dure pour pouvoir faire du Made in France sur ces types de mass market-là. Donc, encore aujourd'hui, je pense que la partie Made in France peut que s'orienter sur des produits plus avec de la valeur ajoutée, du design, de l'innovation, qui permet justement de justifier peut-être un écart de prix, alors qui n'est pas forcément très important, mais qui est suffisant pour que le business plan ne tienne pas sur des produits mass market.
Ouais. Du design, de l'innovation, bah c'est notre mini lave-vaisselle, Bob. Antoine Fichet, finalement, vous répondez à tous ces enjeux environnementaux qui deviennent de plus en plus importants.
Effectivement, l'idée, c'est de créer une gamme d'appareils électroménagers, donc avec DanTech, donc c'est l'entreprise, Dan.tech. Et notre premier produit, c'est Bob. Donc c'est un produit qui consomme moins d'eau qu'un lavage à la main, 5 fois moins d'eau, qui est fabriqué à 85% de plastique recyclé. Donc ça a été aussi très important pour nous, dès l'origine du projet, de trouver des gisements de plastique recyclé pour limiter notre impact et l'éco-conception du produit. Et effectivement, sur notre prochain produit, peut-être on aura le temps d'en parler quelques minutes, mais sur un prochain produit qui s'appelle Bio et qui est un four multifonction, l'idée c'est de combiner 5 fonctions actuelles qui sont sur 5 produits différents, donc un micro-ondes, un toaster, donc un grille-pain, un four avec un grill, un four vapeur et les technologies air fryer, les frites sans huile, dans un seul et même appareil. Donc on réduit l'usage de matériaux, de plastique et d'électronique.
Et on reste toujours comme pour Bob, là c'est Joe maintenant, bonjour Joe, enfin en tout cas bientôt Joe. Il y a toujours cette volonté d'avoir un appareil finalement qu'un étudiant pourrait avoir chez lui, c'est-à-dire vraiment on essaye de minimiser l'espace.
Oui, alors donc l'idée, effectivement, elle est apparue quand j'étais étudiant, mais aujourd'hui, notre cible, ce n'est plus seulement les étudiants. Les étudiants représentent seulement 9% de nos clients. Donc 91% représentent des personnes qui vivent seules.
Ah oui, retraités ou jeunes couples, oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux extrêmes.
Exactement. En fait, le point commun entre tous nos clients, c'est vraiment le nombre de personnes dans le foyer. C'est-à-dire qu'au-dessus de 2 personnes, bon, c'est un peu compliqué d'utiliser nos produits, mais il y a quand même des millions de personnes en Europe, en France, qui vivent seules et qui n'ont pas besoin d'avoir des gros appareils. Même si vous vivez dans une maison, entre guillemets, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros lave-vaisselle si vous êtes seul. Donc un Bob fait largement l'affaire. Il est facilement transportable, il est autonome avec son réservoir d'eau. Donc on répond à un nouvel usage qui sont vraiment des appareils beaucoup plus simples à utiliser, de la consommation locale, donc avec une usine en Vendée. Donc là, on est près d'une cinquantaine de personnes, donc il y a aussi de la création d'emplois, donc c'est les valeurs qu'on porte. Et nos clients, ils sont très attachés.
Antoine Fichet, quel a été le plus compliqué justement dans la mise en place de Bob? Parce que c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident. Avant de enfin trouver, j'allais dire, votre rythme de croisière, c'est... Où ont été les points de blocage, ce qui a demandé le plus de temps?
Alors les difficultés, je pense, c'est que à l'origine du projet, il n'y a pas d'école de lave-vaisselle entre guillemets, donc c'est vraiment du savoir-faire. Et lorsqu'on a créé l'entreprise en 2016, on savait pas trop ce qu'on faisait. On avait cette idée avec mon associé de lancer une entreprise industrielle avec un premier produit qui est un lave-vaisselle. Et c'est véritablement la rencontre avec Monsieur Ravalek, qui était ancien directeur technique chez Brandt, et toute l'équipe technique derrière, qui nous ont permis de passer d'un prototype qu'on avait réalisé dans une cave un peu en mode start-up, à une entreprise PMI, vraiment entreprise industrielle, avec un produit réplicable à 60 000 unités à l'heure actuelle.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, fin 2023, vous devriez construire la première usine en Vendée?
Oui, alors Nicolas, si tu veux. Oui.
Nicolas, racontez-nous tout ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. On est loin du produit dans le garage.
C'est ça. Alors aujourd'hui, on est dans une petite usine à Cugance, à côté de Clisson, et on a 2000 m² de bâtiment. Donc, c'est suffisant pour faire Bob, mais pas assez pour faire Bob et Joe. Donc, on a un projet de construire une usine à Montaigu. Donc, Montaigu, c'est entre La Roche-sur-Yon et Nantes. À la sortie de l'autoroute, on a réservé un terrain de 11 000 m² pour construire notre usine qui permettra de fabriquer les deux produits, Bob et Joe. Voilà.
Et peut-être embaucher, c'est ça, d'ici 3 ans, une cinquantaine de personnes?
Exactement, c'est-à-dire qu'avec Joe en plus de Bob, on pense multiplier par 3 les équipes d'ici 3 ans, donc au moins 50 personnes supplémentaires à partir de fin 2023, début 2024. Ouais.
Et on imagine que la famille va continuer à s'agrandir, Bob, Joe, et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui viendront compléter cette belle équipe de Dan Technologies. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Antoine Fichet, je rappelle que vous êtes donc le cofondateur de Bob, le projet Bob, et Nicolas Ravalek, vous êtes le directeur général, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Exactement.
de cette de Dan Technology. Merci à tous les deux pour vos témoignages respectifs et je vous souhaite un très très bon dimanche.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, il est temps de se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une autre belle aventure, le drive tout nu. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui met en avant ces entrepreneurs qui font le pari du fabriqué en France. Et on profite de cet été pour aller à la rencontre de ces belles histoires. Et cette fois-ci, nous allons du côté de Toulouse pour découvrir ensemble le drive tout nu.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes avec Pierre Géraud, cofondateur du drive tout nu. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, ce drive tout nu, on avait déjà eu l'occasion de vous avoir il y a un petit moment, il y a plusieurs années, peut-être 3-4 ans, au téléphone, en radio. Et vous étiez justement au début de cette belle aventure. Alors déjà, pour nos auditeurs qui n'ont pas écouté cette émission, expliquez-nous ce qu'est le drive tout nu.
Alors, le drive tout nu, c'est un supermarché en drive, zéro déchet et 100% responsable. Alors, comment ça marche? Vous faites vos courses sur ledrivetoutnu.com et ensuite, nous, on vous prépare une commande de tous les produits du quotidien, donc de l'alimentaire, des produits cosmétiques, des produits d'hygiène, des produits ménagers. À la différence des drives classiques, que tous les produits sont conditionnés dans des emballages réutilisables, soit des sacs en toile, soit des bocaux en verre.
Voilà, et vous êtes en famille, on l'entend et ça fait plaisir, c'est comme ça, voilà. Il y a de la vie. Hein.
tout à fait.
Ça râle, mais c'est comme ça.
Mais alors, c'est
ce qu'on appelle une start-up à impact, ça.
Exactement, donc on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a des critères dans nos statuts qui font qu'on respecte des critères d'entreprise à mission.
Non, mais c'est vraiment, vous êtes une start-up pionnière hein, dans ce domaine du drive 100% responsable et 0% déchets. Et alors, la belle histoire, on l'entend avec vos enfants derrière, c'est que cette aventure, vous l'avez créée avec votre femme, hein, votre compagne Salomé. Et c'est ensemble, hein, en 2018, que vous avez eu cette belle idée à Toulouse.
C'est ça. Alors pour la petite histoire, l'idée, on l'a eu il y a un moment puisqu'on a créé, on a essayé de créer le drive tout nu une première fois en 2012.
Ah oui.
Et donc c'était un brin précurseur et puis on s'y est peut-être pas très bien pris à l'époque. Donc l'idée ne nous a pas quitté. On a continué à se dire comment on pourrait créer le drive tout nu et c'est en 2017 qu'on s'est relancé pour finalement aboutir à l'ouverture du premier drive zéro déchet du monde du coup à Bozelle en décembre 2018.
Ouais. Et donc ça veut dire qu'on vient chez vous avec nos bocaux, nos contenants. Et comme ça, on vient faire ses courses et qu'on essaye, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de sac plastique, il n'y a pas de sac tout court. Enfin, on essaye, il faut en tout cas du recyclable ou pas du tout même d'ailleurs.
Il n'y a pas de recyclable, non, c'est vraiment du zéro déchet. Alors, un petit détail, c'est que vous ne venez pas avec vos bocaux, nous on vous les fournit.
Donc,
c'est vraiment comme aller chez un drive conventionnel, vous n'avez pas besoin de prévoir vos bocaux, nous on vous les met à disposition. Et par contre, vous pouvez nous les rapporter lors d'une prochaine commande et nous on va s'occuper de les stériliser puis de les remettre dans le circuit.
Et alors...
ça, pour que ce soit entièrement circulaire.
Et alors du coup, au niveau des produits que vous proposez dans ce drive tout nu, comment vous sélectionnez les produits, les entrepreneurs, les marques que vous souhaitez exposer dans ce drive?
Alors on a trois critères très stricts. Le sourcing, ça fait vraiment partie de la valeur ajoutée, de la promesse du drive tout nu. On a trois critères très stricts et maintenant on est une équipe de 4 ingénieurs agro aux achats et au sourcing. Donc le premier critère, c'est bien sûr que nos producteurs et fournisseurs jouent le jeu du zéro déchet ou du vrac avec nous. Le second critère, c'est le local. On s'engage à ce qu'il y ait au moins 60% de produits locaux, c'est-à-dire des produits qui sont issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et au-delà de l'aspect géographique local, on est aussi en circuit court avec plus de 80% de nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'on est le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et enfin, le dernier critère, c'est la qualité. Donc, tous nos produits sont déjà très bons. On les goûte tous, bien sûr. C'est pas forcément la partie la plus désagréable du métier. Et ils sont tous bien faits, c'est-à-dire qu'ils sont soit bio, soit assimilés.
Aujourd'hui, donc, on l'a dit, hein, le premier drive a été créé à Toulouse.
Oui.
Le deuxième, les suivants, Lille, Chambéry et bientôt Bordeaux.
C'est ça, on a annoncé hier, après un suspense insoutenable sur Instagram, qu'on allait ouvrir donc deux drives à Bordeaux. En fait, ce n'est pas vraiment une ouverture, c'est une réunion avec un autre drive zéro déchet qui existait depuis 2020 et qui vient unir ses forces avec les nôtres parce qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin.
Ouais. Non, mais vous avez bien raison. Mais alors, ce sont quoi? Ce sont des franchises, des licences ou bien c'est vous qui ouvrez ces drives?
Alors, c'est des franchises sociales. Donc, la particularité de la franchise sociale, c'est qu'on fait appel à l'intelligence collective et puis surtout, on met l'impact au cœur du réseau. Donc, nos franchisés sont eux aussi labellisés ESUS. Et puis, bien sûr, c'est des entreprises qui ont pour mission le zéro déchet et la consommation responsable.
Oui, ce sont des entreprises qui partagent les mêmes valeurs avec, comme vous le disiez, cette envie finalement de démocratiser la consommation responsable et zéro déchet. Vous avez là aussi le sentiment qu'il y a eu un vrai déclic auprès des Français, que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. On est vraiment en train de changer ses habitudes, parce que j'avais vu des témoignages que pendant le Covid, les gens étaient retournés vers le drive, vers le vrac, le zéro déchet, mais une fois les habitudes reprises avec le travail, boulot, métro, dodo pour ceux qui vivent dans les grandes villes, on repassait plutôt par les anciens circuits, j'allais dire. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a quand même une vraie tendance de fond ?
Alors, effectivement, moi aussi, j'ai vu les études et puis j'en parle à des confrères d'épicerie vrac, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un fort engouement pour la consommation responsable lors du confinement. Et puis, c'était pas juste pour l'alimentaire, mais aussi pour la mode et puis la banque, etc. Et on a senti un retour aux habitudes au déconfinement. La force du Drive to Nu, c'est qu'en fait, on ne change pas les habitudes des gens, c'est juste que les produits sont meilleurs, mais en fait, on fait ses courses tout comme si on allait dans d'autres drives de la grande distribution. Et donc, on a la chance de ne pas avoir vu la décrue comme certains de nos confrères l'ont vécu, voire au contraire, du coup, de continuer à grandir et donc d'ouvrir des drives et de pouvoir continuer à pousser la consommation responsable grâce au fait qu'on ne change pas du tout les habitudes de nos clients.
Non, puis vous avez une base fidèle, finalement. C'est toujours ceux qui venaient déjà vous voir avant, qui ont continué à venir, et peut-être même ça a été l'occasion d'en séduire de nouveau pendant
période. C'est ça. On a beaucoup de clients qui bien sûr nous connaissent depuis très longtemps, certains à Bozelle qui étaient déjà clients en décembre 2018, voire avant lors de la phase de test, et que je salue bien d'ailleurs. Et on a aussi des gens qui nous ont découvert tout au fil de l'eau, et puis bien sûr un gros contingent de personnes qui nous ont découvert ou redécouvert lors du confinement et qui ont pris leurs habitudes au Drive to Nu à ce moment-là.
Et la bonne nouvelle, vous avez bien fait de relancer le Drive to Nu en 2017, c'est que là vous avez bouclé une deuxième levée de fonds, 5 millions d'euros pour continuer à vous développer.
Exactement. En fait, la force d'un... Enfin, le critère principal pour réussir dans le métier du drive zéro déchet, c'est d'être hyper organisé. Et pour être hyper organisé, il faut avoir un outil logistique et un outil informatique hyper précis. Et donc ça, on ne peut pas le payer avec simplement un drive. Il faut être en réseau, il faut mutualiser les forces. Ouais. Et c'est pour ça que dès 2019, on a eu l'intuition qu'il fallait qu'on crée ce réseau. Et donc, on avait envie de s'appuyer sur d'autres entrepreneurs qui avaient envie, eux aussi, d'ouvrir des drives zéro déchet et qui voulaient mutualiser leurs forces avec le drive tout nu, ouvrir des drives tout nu, donc bénéficier de l'image de marque, mais aussi bénéficier de tout le savoir-faire logistique, informatique et puis mettre en commun pour continuer à le développer. Et donc, cette levée de fonds, elle sert à financer les salaires, justement, pour pouvoir un peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire développer cet outil informatique et cet outil logistique avant d'avoir suffisamment de drives pour pouvoir le payer tout seul.
Donc, continuer à se développer, étendre son impact sur tout le territoire.
Exactement. Donc nous, on rêve d'un monde zéro déchet et on est convaincus que c'est via les drives zéro déchet et en particulier les drives tout nus que ça va passer.
L'enseigne bordelaise, là, et 10 nouveaux points de vente par an d'ici 2026.
C'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait.
Vaut mieux être bien organisé. Ouais.
Hein. Oui, on est obligé d'être très bien organisé, en effet.
En tout cas, vous avez cru en ce projet avec votre femme. Et aujourd'hui, le Drive tout nu ne cesse de s'étendre sur tout le territoire. Vous savez quoi ? On vous souhaite longue vie avec ce Drive tout nu. Et puis, on espère reprendre de vos nouvelles dans quelques années et apprendre que vous êtes à 100, 150, je ne sais combien points de vente. Et peut-être même en Europe.
Alors, et oui, attention, et peut-être même que vous serez cliente la prochaine fois.
Mais oui, mais moi j'attends de l'avoir effectivement là où j'habite. Pour l'instant, malheureusement, sur les villes citées, je ne fais pas partie des heureux qui vont pouvoir en profiter très bientôt. Mais j'espère bien en profiter moi aussi.
Merci en tout cas
d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci
et je vous souhaite, je vous laisse en famille.
Eh bien entendu, c'est parti, je retourne au biberon.
Bonne journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio CSA La France, avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut, alors on va où cette semaine?
Bonjour Nathalie, aujourd'hui je suis en balade dans le parc du Luberon et j'en profite pour visiter une belle entreprise, un fleuron d'artisanat d'art de la région. C'est l'entreprise Mathieu, la lustrerie Mathieu, et je suis en présence de son fondateur, de son gérant, Régis Mathieu. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation générale de l'entreprise?
Alors l'entreprise est ici à Gargas, c'est un rayonnement mondial puisque nous restaurons, nous refabriquons, nous créons des luminaires pour le monde entier. Et puis moi je suis collectionneur de lustres, donc ça fait maintenant 30 ans que j'ai repris cette entreprise. C'est une entreprise familiale, c'est mon père qui l'a créée en 1948. Et depuis 30 ans je collectionne les lustres anciens. Donc j'ai aujourd'hui un millier de lustres anciens que nous vendons évidemment quand les clients en ont besoin. Mais j'ai vraiment acquis ce millier de lustres avec une notion de collection et pas de revente.
Qui sert aussi d'inspiration pour certaines pièces que vous créez ou que vous recréez?
Alors oui, ils servent d'inspiration et de modèle pour certaines pièces que l'on duplique. Et puis ils servent aussi à avoir ouvert un musée qui permet en fait de recréer l'histoire des lustres, comme si vous lisiez un livre sur l'histoire des lustres, mais à travers ces lustres intéressants. Et puis vous vous baladez ici du XIIIe siècle à aujourd'hui avec les différentes techniques, les différents matériaux, etc.
C'est une balade à travers le temps.
C'est vraiment la balade à travers le temps qui permet en fait de comprendre que les lustres ont toujours été très contemporains, mais dans leur époque. C'est un peu ça l'idée de la collection, c'est d'avoir acheté que des lustres modernes pour arriver aujourd'hui aux lustres que nous dessinons, aux lustres contemporains que je dessine, mais de comprendre les inspirations, les formes, les matériaux, les techniques d'éclairage, l'huile, les bougies, le gaz, l'électricité, etc.
La lustrerie est à l'avant-garde de l'artisanat d'art, quelles que soient les époques?
La lustrerie, c'est un petit peu comme la bijouterie, c'est vraiment un modèle, un produit de luxe qui ne sert pas du tout à éclairer, qui est vraiment un produit qui sert à se faire plaisir, à rayonner, à montrer son pouvoir. Ça depuis les châteaux forts, depuis les grandes cathédrales jusqu'à aujourd'hui. Et quelque part, ce plaisir, ce pouvoir, on doit le partager. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas allumer 500 bougies sur un lustre quand on est tout seul. C'est vraiment parce qu'on reçoit quelqu'un. On ne fait pas un dîner aux chandelles tout seul. Ou alors
donc c'est un signe de convivialité aussi.
C'est vraiment le partage. Vraiment le partage. Et c'est pour ça que l'entreprise, on devait montrer l'exemple. Donc c'est pour ça qu'elle est ouverte au public et qu'on est dans le partage. Ça ne nous dérange jamais qu'on vienne nous voir. Et c'est d'ailleurs toujours avec cette même logique que nous avons créé un troisième bâtiment. J'aurais dû commencer par ça. Nous sommes ici, entre Gargas et Roussillon, dans les anciennes usines d'ocre. Donc l'ocre, c'est cette terre rouge qui a fait le Colorado des ocres, les façades à Roussillon, etc. Et ces grandes usines rouges, si vous voulez, étaient magnifiques, avaient des grandes hauteurs sous plafond. Et nous avons racheté ces usines et nous les restaurons petit peu par petit peu avec les bassins de décantation, les broyeuses, les fours, etc. Et nous y avons transféré notre atelier de lustrerie il y a 20 ans. Et nous avons ces grands bâtiments au milieu de ce grand parc archéologie industrielle dans lequel il y a les bassins, le malaxeur.
Témoignage de cette période industrielle.
Voilà, du passé, la chance que nous avons d'avoir hérité de ces grands bâtiments rouges. Et donc ça, c'est ouvert au public et nous les éclairons par des lustres. Donc il y a une double visite, soit la visite pour l'archéologie industrielle, soit la visite que l'on fait pour aller voir les lustres, soit une dernière visite qui, moi, je trouve très intéressante, c'est de voir les compagnons travailler, parce que là, pour le coup, il se passe toujours quelque chose. Vous avez toujours des grands lustres qui sont en train d'être restaurés, que ce soit pour Notre-Dame, pour le château de Versailles ou alors pour les palais des Maharajas, un petit peu partout dans le monde, et vous avez ces lustres qui se côtoient à Gargas. C'est assez surprenant.
Est-ce qu'on peut aller les voir?
Volontiers, suivez-moi.
Ben, je vous suis.
Donc là, vous êtes dans la partie assemblage, la partie montage des lustres, dans laquelle se côtoie évidemment l'archéologie industrielle, puisqu'on voit la meule et les tamis d'époque du 19e siècle.
La meule d'époque,
voilà, qui sont éclairés par de grands lustres.
Qui étaient en bois.
Qui étaient en bois à l'époque, oui, avec la meule qui était en pierre. Et puis, ces ateliers aujourd'hui abritent l'atelier de fabrication de lustres. Et là, vous êtes dans la partie assemblage, là où sont assemblées les parties en bronze qui sont fabriquées à l'étage à l'atelier, et le cristal, etc.
Comme Régis a encore beaucoup de choses à nous montrer, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain pour la suite de la visite. Bonne semaine, Nathalie.
Merci beaucoup, Thibaut, pour cette idée de visite, et on se retrouve la semaine prochaine.
Sud Radio CSA La France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et on arrive à la fin de notre émission. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.